sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le mercredi 12 octobre 2011, Patrick de Carolis a été installé au sein de l'Académie des Beaux-Arts sous la coupole de l'Institut de France, où il a été élu plusieurs mois auparavant dans la section des membres libres le 5 mai 2010 au fauteuil d'André Bettencourt. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette séance sous la coupole, au cours de laquelle vous entendrez son confrère Hugues Gall, élu comme lui dans la section des membres libres de l'Académie en 2002, prononcer ce qu'on appelle le discours d'installation du nouvel académicien. Puis en réponse, selon l'usage, le discours de Patrick de Carolis, qui consiste en la notice sur la vie et les travaux de son prédécesseur André Bettencourt, homme politique, ministre et grand mécène, décédé en 2007. Retrouvons Hugues Gall sous la coupole de l'Institut de France.
Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, Madame le Ministre, Monsieur le représentant de Madame le Ministre du Budget, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis pour avoir le grand plaisir de recevoir dans notre compagnie Patrick de Carolis. La parole est à notre confrère Hugues Gall.
Monsieur, c'était, souvenez-vous, le matin du 8 janvier 2008 au Palais de l'Élysée. Le président de la République, présentant ses vœux à la presse, annonce sa décision de supprimer la publicité sur les chaînes du service public. Le secret a été bien gardé. L'effet de surprise est total pour chacun des invités, pour la ministre de la Culture et de la Communication tout d'abord, pour vous surtout. N'êtes-vous pas le président de France Télévisions que cette révolution risquait d'ébranler, comme elle allait d'ailleurs chahuter tout le paysage de l'audiovisuel français. Le danseur que vous avez failli être, et que vous avez failli devenir, et qui continue, me dit-on, à faire sa barre chaque matin, est pris à contre-pied par le brillant saut présidentiel qu'en danse classique, on appelle un royal. Louis XIV, le premier danseur de son temps, l'avait, dit-on, inventé. L'adage, si complexe, ce pas de trois toujours renouvelé que vous dansez depuis près de 3 ans, avec l'État, votre actionnaire d'une part, et avec votre public d'autre part, l'on vient d'en bouleverser la délicate chorégraphie. Un moment de stupeur, d'étonnement, d'irritation sans doute, de découragement peut-être. Aujourd'hui, il est seul, de nouveau seul, naufragé sur ce boulevard des Lys, inondé de soleil, son ventre est dévoré d'angoisse, et ses jambes fauchées par le vide. Ces vers libres, tirés de refuge pour tant d'orages, votre recueil de poèmes au si beau titre, ces vers, vous ont-ils été inspirés par ce moment où tout a semblé vaciller ? Car le soir, chaque soir et jusque tard dans la nuit, vous écrivez, vous retrouvez votre vrai refuge, les vers, la poésie, vitale et salvatrice, dont le flux et le reflux des mots, au creux des rythmes amis et rassurants, vous êtes protégés, apaisés. Depuis votre enfance, poètes et poésies sont vos amis. Vous traversez l'adolescence entre Boris Vian et Camus, plus tard Sandrard, Valéry, Aragon, Éluard et bien d'autres viendront les rejoindre. Ils seront pour vous des guides, des maîtres exigeants, et tout comme Victor Hugo, ils vous apprendront à voir dans les choses plus que les choses. Ils conforteront en vous une exigence essentielle, rester libre, ne pas subir. La poésie, est-on si loin de la danse ? La danse est l'instable. Elle prodigue l'instable, passe par l'impossible, abuse de l'improbable et à force de nier par son effort l'état extraordinaire des choses, elle crée aux esprits l'idée d'un autre état, d'un état exceptionnel, d'un état qui ne serait que d'action, permanence et qui se consoliderait au moyen d'une production incessante de travail. N'êtes-vous pas proche de ce Paul Valéry qui philosophe sur la danse ? Dans toute classe de danse classique, bien menée, il y a pour le danseur qui se chauffe le temps de la barre, cette amie fixée au mur et à laquelle on se tient pour trouver son équilibre, puis vient le temps du milieu. Là, au centre de la salle, loin des murs, on est seul en soi-même, on est libre, on saute, on dessine l'espace, on combat la pesanteur avec son corps, avec son intelligence, mais surtout avec son âme. 8 janvier 2008, le voilà donc revenu pour vous, le moment du milieu, celui du sursaut et de la réaction. Danse, contre-danse, marche, contre-marche, chorégraphie, stratégie. Vous n'attendrez pas la promulgation des lois portant réforme du service public. Avec 3 mois d'avance, dès le 5 janvier 2009, vous supprimez la publicité sur les écrans de France Télévisions après 20 heures. En tacticien, en chorégraphe inspiré, embrassant l'imprévu, vous inventez un nouvel enchaînement, un nouveau pas. Vous exigez le respect du contrat négocié naguère avec le ministère des Finances, avant la chute des revenus publicitaires, vous exigez la compensation intégrale du manque à gagner, vous refusez toute modification de la grille de programme, cette partition que vous avez écrite et qui mettait en musique votre cahier des charges, ce virage éditorial qui était votre credo. Et, surprenant tous les commentateurs, vous bouclez l'exercice avec des bénéfices. Chef d'entreprise, danseur, poète, vous êtes en toute chose quelqu'un de libre, ami de la vérité, ennemi de l'injustice, jusqu'à l'impertinence, peut-être même jusqu'à l'insolence. A-t-on souvent vu par le passé un président de France Télévisions croiser le fer avec le chef de l'État ? Qui donc, avant vous, a usé et qui, après vous, usera d'adjectifs aussi forts que faux, stupide et injuste pour qualifier les propos critiques de son impérieux actionnaire ? Qui, avant vous, a jamais refusé ou qui, après vous, refusera de se soumettre et fera voter son conseil d'administration contre l'avis de l'État ? Il s'agissait alors, on s'en souvient, de suspendre la privatisation de France Télévisions Publicité. Décidément, danseur et poète, vous voilà aussi un boxeur, un bretteur, il y a du chevalier Bayard en vous. Mais revenons au commencement, aux temps heureux de votre découverte du monde. Tout jeune déjà, ébloui par West Side Story, vous rêviez de comédie musicale. Vos parents, ayant quitté Arles, votre vraie patrie, celle de votre mère, pour Montpellier, vous entrez à 8 ans au cours de danse de Périgny. Vos idoles sont alors Georges Donne, Paolo Bortoluzzi, deux danseurs étoiles du ballet du XXe siècle, interprètes chéris de Maurice Béjart, notre ami, notre maître. C'est là que se forge votre caractère. La danse, école d'exigence, de précision, d'énergie domptée vous donnera sans doute ce qui deviendra votre devise, faire et parfaire. Mais vous découvrez aussi le théâtre au lycée Joffre et vous entrez au conservatoire d'art dramatique. Vous n'avez que 14 ans et déjà, on vous engage, vous participez à l'enregistrement de pièces radiophoniques. À 17 ans, une chance s'offre à vous. Rosella Hightower, la grande danseuse américaine, elle vous remarque. Elle vous propose, une fois votre bac en poche, un bac de lettres classiques bien sûr, d'intégrer sa compagnie. Premier tournant, premier choix, vous dites non. Non à une vocation à laquelle tout semble pourtant vous pousser. Que choisir ? Non à la danse, mais alors le théâtre, la poésie, la littérature ? Eh bien, ce sera le journalisme. L'École supérieure de journalisme de Paris vous accueille, rue de Rennes. Vous n'y resterez pas longtemps. Dès votre première année, en 1973, vous obtenez un stage à Inter 3, l'ancêtre de France 3. À la fin de l'année, vous voilà présentateur du journal télévisé de FR3 Reims. Vous avez 20 ans à peine et déjà votre carte de presse en poche. Vous êtes célèbre en Champagne et jusqu'au fond de l'Ardenne et vous vous frottez à toutes les réalités de la vie d'une région. Vous apprenez une autre France. Vous vivez de l'intérieur la fin d'un système, celui de l'ORTF, la plus grande entreprise française d'information qui réunit alors 5 chaînes de radio, 3 chaînes de télévision. Mais son monopole est contesté, il lui faut s'adapter ou disparaître. Le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, tranche. L'ORTF est supprimé. Sur ses décombres sont créées de nouvelles sociétés de programmes. De cette période si mouvementée, vous vient la conviction que le service public de l'audiovisuel doit être indépendant du pouvoir politique. À cet âge, il n'est pas interdit de rêver. Mais aussi que le démembrer n'est pas l'émanciper, c'est l'affaiblir, c'est risquer de l'assujettir davantage. Les cartes sont rebattues, vous êtes appelé à TF1, alors chaîne du service public, et le 6 janvier 1975, vous présentez les brèves du journal de 23 heures auprès de Claude Brovelli. Vous conservez chez vous la photo de ce moment où vous paraissez sur le plateau de la première chaîne, l'œil rieur, mais le regard fier. C'est l'époque où vous côtoyez Roger Gicquel et déjà Jean-Pierre Pernaut, Dominique Baudis aussi. En 1978, vous voilà reporter au service politique de TF1, sous l'autorité de Patrice Duhamel, avec lequel va naître une amitié forte, on dit aujourd'hui, je crois, inoxydable. Pendant 5 ans, vous serez chargé de suivre pour votre chaîne les activités du Parti communiste, ce qui ne fera pas de vous pour autant un compagnon de route des camarades du tout-puissant et fascinant Georges Marchais. Carte de presse, oui. Carte du parti, non. Si l'ORTF a disparu, le monopole de l'État sur l'audiovisuel perdure jusqu'à l'élection présidentielle de 1981. Vous souhaitez prendre de nouvelles responsabilités, on vous les refuse, vous démissionnez. S'ensuivent 8 mois de chômage, mais Pierre Desgroupes vous appelle, vous devenez grand reporter au service politique d'Antenne 2, vous y côtoierez Marcel Julien, François Chalet, Jacques Chancel, quelle grande école. Lors des débats qui ont entouré autour de l'été 86 le vote de la loi Léotard relative à la liberté de communication, les chroniqueurs étrangers ont souligné, en feignant de s'en étonner, un phénomène typiquement français. La quasi-simultanéité entre un changement politique et une réforme de l'audiovisuel. Le jour même de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, on s'en souvient, la foule rassemblée sur la place de la Bastille réclame la tête du directeur de l'information d'Antenne 2, Jean-Pierre Elkabbach. Presque 5 ans plus tard, alors que la majorité s'inverse, le gouvernement de Jacques Chirac place au rang de ses priorités la réforme de l'audiovisuel. Le 30 septembre 1986, la loi relative à la liberté de communication est promulguée. Mais en 1985, vous avez tenté l'aventure de la télévision privée auprès de Robert Hersan et de Silvio Berlusconi. C'est la 5, première chaîne française à la fois généraliste, privée et gratuite. Vous rejoignez Patrice Duhamel, directeur de l'information, en tant que directeur adjoint, chargé des programmes et des documents. À cette époque, il n'y a plus aucune émission de grand reportage sur les chaînes françaises. Et lors d'un voyage aux États-Unis, vous rencontrez Dan Hewitt, le célèbre créateur et présentateur de 60 Minutes. Vous vous en inspirerez quelques mois plus tard pour lancer le magazine Reporter, un magazine qui rendra hommage au métier de grand reporter, alors particulièrement exposé, notamment dans la guerre civile du Liban et dans la campagne soviétique en Afghanistan. L'émission est un succès, mais la 5 meurt le 12 avril 1992 à minuit. Nicolas Taverneau vous propose alors de rejoindre M6 pour lancer un nouveau magazine. Vous devenez directeur de l'information de la chaîne qui s'appelle « La petite chaîne qui monte » et vous créez « Zone interdite ». Le thème de l'émission s'inspire du film d'Andrei Tarkovsky, « Stalker, le passeur ». Le passeur qui guide les fugitifs au-delà d'une zone interdite, indiquée par une brume épaisse et inquiétante. C'est l'allégorie de l'enfermement totalitaire, mais aussi celle de votre conception de la mission du journaliste. En 1997, Patrice Duhamel, encore lui, alors directeur général chargé des antennes de France 3, vous rappelle en tant que directeur des magazines et des documentaires. Ensemble, vous réfléchissez à une émission capable de succéder à La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Vous revient alors en mémoire un poème sanskrit cité par Romain Gary. Il n'y a rien de plus beau que de donner à ses enfants des racines et des ailes. Marcel Duchamp ne parlait que rarement de son nu descendant d'un escalier. Et lorsqu'il l'évoquait, il disait « Cette peinture », il ajoutait parfois résigné « J'étais éclipsé par cette peinture, j'ai passé ma vie caché derrière elle ». Vos 5 ans remarquables à la tête de l'audiovisuel public n'y peuvent rien. Vous êtes d'abord, vous restez pour tous les Français le visage et le producteur de Des Racines et des Ailes, cette émission qui occupe encore une place si particulière dans leur cœur. Des Racines, votre arrière-grand-père, italien, arrive du Latium en France, dans la région lyonnaise, en 1893. Il est bottier. Votre grand-père le sera également. Votre grand-mère maternelle, d'une ancienne famille provençale, était-elle modiste. Votre père est tailleur. À votre manière, vous perpétuez cette tradition familiale. Vous avez toujours voulu conjuguer le beau et l'utile, sans sacrifier jamais l'un à l'autre. Des racines et des ailes, voilà un travail d'artisan au sens noble et ancien, un travail de potier grec, de bottier, de tailleur italien, de journaliste français. En exaltant le passé sans le sanctuariser, en embrassant le présent sans céder à la dictature de l'instant, votre émission a ouvert pour tous les Français un musée exigeant et populaire, immatériel et toujours renouvelé. L'émission contribue, et ce n'est pas son moindre mérite, à combler un vide de plus en plus cruel. L'enseignement de l'histoire en France est en crise depuis trop longtemps. La mémoire, les repères s'effacent peu à peu. Vous en êtes conscient, vous en souffrez, vous y apportez votre remède. Vous créez l'émission en 1997. Des sites de la Grèce antique au château cathare, des monuments de la Sicile normande au château de Fontainebleau et aussi au palais Mazarin, sous cette coupole où nous sommes, c'est vous qui présenterez chaque nouvelle édition jusqu'à votre accession à la présidence de France Télévisions. Au fil des images et des séquences, défilent conservateurs, historiens, professeurs, chercheurs, artistes et écrivains, conférenciers et érudits, ministres de la République, tous passionnés de culture, d'art et de patrimoine, tournés vers le public, attentifs aux téléspectateurs. Vous avez élargi leur auditoire comme ils ne l'auraient jamais rêvé, en transportant amphithéâtres et universités, musées et châteaux, galeries et monuments, quelque part dans un rêve commun, coup de marteau et fissures salutaires dans le mur qui s'élevait insensiblement entre la nation et son histoire. Des racines et des ailes, dit aussi la nécessité de réinstaller le temps long et la transmission au cœur de la société. Votre générique utilise des images tirées du film Koyaanisqatsi, réalisé en 1982 par Godfrey Reggio et produit par Francis Ford Coppola. Ni documentaire ni fiction, ce film joue sur les perceptions du temps et de l'espace. Il vous inspirera. Si la télévision reflète souvent une forme de décadence culturelle de notre société, et si, comme on vient encore de nous le rappeler, le petit écran nuit gravement à la santé physique et psychique, vous nous avez prouvé qu'ils peuvent être aussi un instrument de son renouveau. Vous donnez raison à Hölderlin, « Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch », là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Je choisis tout. Votre secret est peut-être là, dans ce cri de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous avez choisi de ne pas choisir, de ne pas vous priver, d'embrasser à la fois l'action et les mots, le corps et l'esprit, la discipline de la danse et la liberté de la poésie, l'instinctif et le logique, le dionysiaque et l'apollinien, la télévision et la culture. L'éclectisme, le voilà votre choix. Mais avant d'être le passeur, pour être le bon truchement, il fallait être l'ami et le confident. Le confident de ceux qui savent, hommes de culture et de connaissances, souvent rebutés par l'insupportable accélérando du temps télévisuel et par le niveau intellectuel, si l'on peut dire, de la plupart des programmes. L'ami des publics ensuite, souvent étranger à ces temples du savoir ou de la culture, dans lesquels ils se sentent souvent de trop, faute de code, faute de guide. Il fallait leur en rendre les clés, il fallait, je vous cite, « rendre l'intelligence intelligible ». Car vous l'avez, vous, ce respect, cet amour du grand public qui manque tant aux chapelles. Vous êtes proche de ce Van Gogh qui résumait sa quête dans un merveilleux et naïf raccourci, il n'y a rien de plus réellement artistique que d'aimer les gens. Et lorsque l'on vous demande votre maxime, vous répondez simplement « toujours partir de l'humain, car seul ce qui est humain peut être directement partagé ». Ce n'est pas une pirouette de journaliste, c'est votre conviction profonde. C'est aussi votre engagement personnel. N'êtes-vous pas totalement impliqué dans la démarche de Care France, dont vous êtes un des administrateurs bénévoles? En juillet 2005, alors que vous veniez d'être élu président de l'audiovisuel public, tout ce que Paris compte de malicieux, de jaloux, d'intrigants, a fait du monde, se gaussait. Son programme, c'est des racines et des ailes. Il ne croyait pas si bien dire. C'est sans doute sur cette expérience que vous avez bâti avec quel succès l'essentiel du programme éditorial de France Télévisions. Mais auparavant, n'aviez-vous pas été également le brillant directeur général du Figaro Magazine et, en 2001, à l'issue d'une émission à laquelle participe Madame Bernadette Chirac, et sur la proposition de votre éditrice, vous devenez le confesseur, l'Ekerman de la Première Dame, pour un livre « Conversation ». Vous tissez là une relation de confiance, d'estime réciproque et d'amitié qui dure. Le 6 juillet 2005, après un pas de deux parfaitement exécuté, Patrice Duhamel et vous prenez les rênes de l'audiovisuel public français. Un duo rodé par de vrais amis de 30 ans, selon la formule consacrée, la fidélité est ici réciproque, la solidarité totale, jusqu'au bout. Cela en agacera plus d'un. Patrice Duhamel, homme d'expérience, se prépare à la candidature. Du moins, c'est ce que chacun croit. Vous êtes dans sa roue, protégé du vent et du reste. Le 13 juin 2005, jour de clôture des candidatures, on attend celle de Patrice Duhamel, mais coup de théâtre, vous montez en première ligne, de Duhamel, point, à sa place, vous. Le jour du scrutin, un tour suffira pour vous imposer. Il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Savions-nous le Conseil supérieur de l'audiovisuel si familier de Beaumarchais ? Dès le 5 juillet 2005, lors de votre intervention devant le CSA, votre discours de politique générale, vous fixez le cap, celui d'un double virage éditorial et stratégique, et pour les mettre en œuvre, 5 axes d'action prioritaires. Faire de France Télévisions un véritable groupe reconnu, transcendant les identités de chacune des chaînes. Relancer le soutien à la production et à la création, créer une nouvelle dynamique en faveur de la culture et de l'innovation, proposer une programmation plus audacieuse et plus respectueuse du public, enfin, développer le rayonnement international de votre groupe. 5 ans plus tard, un bilan interne au CSA, dont on a pu avoir connaissance, constatera que vous avez, malgré les tempêtes et les avaries, respectez vos engagements et menez le bateau à bon port. France Télévisions est une entreprise attachante, mais une entreprise publique française, donc bien difficile à gouverner. Vous avez pourtant réussi à imposer une voilure commune au groupe et à mieux structurer la coopération des antennes entre elles. Vous avez créé un véritable bouquet de services publics tout en renforçant l'identité de chaque chaîne. Alors que de l'autre côté de la scène, l'on se vantait de vendre du temps de cerveau disponible, vous avez fait preuve d'ambition éditoriale, offrant au public de véritables programmes culturels. À l'heure où s'entassaient, sur les chaînes privées, des amas de télévision résiduels, le courage, c'était bien le choix d'une certaine idée de la culture, d'un certain respect des téléspectateurs. Vous avez redonné sa place au livre, dans nombre d'émissions, mais aussi dans des fictions adaptées de l'œuvre et de la vie des grands auteurs, pour mémoire La guerre et la paix, Chateaubriand, Maupassant. Vous avez beaucoup fait aussi pour le spectacle vivant en organisant de grands rendez-vous en direct, des corrigis d'Orange ou d'ailleurs, mais surtout en resco-référence, en osant programmer le théâtre et l'opéra à 20h35. Sur France 3, avec Ce soir ou jamais, Frédéric Taddeï a pu offrir un espace de débat, sans doute inégal, mais toujours passionnant et rafraîchissant, un repère pour l'intelligence avant le sommeil de la nuit. Qui d'autre que vous aurait misé sur une émission de ce type chaque soir de la semaine ? Et puis, il y a Apocalypse. Apocalypse, la série documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, bouleversante, mise au jour, dans des couleurs restituées, Apocalypse, qui reste l'un des événements télévisuels majeurs des 20 dernières années. En modernisant les journaux télévisés de chaque chaîne, en créant de nouveaux magazines, vous avez rapproché l'information du public et vous avez favorisé l'expression du débat démocratique. Si l'érosion structurelle des parts d'audience des grandes chaînes généralistes était irréversible, vous avez réussi, en lançant le groupe dans la révolution du média global, à en limiter fortement l'impact. Enfin, en créant la Fondation France Télévisions, qui conforte la dimension civique du service public audiovisuel, vous avez affirmé davantage encore la mission spécifique de votre groupe. En 2010, vous quittez France Télévisions, non sans regret, mais la tête haute. Vous vous ressourcez dans l'écriture et votre roman historique, La Dame du Palatin, nous ramène à Arles. Vous romancez avec talent la vie de Paulina, votre lointaine concitoyenne, la belle arlésienne, épouse vertueuse et méconnue de Sénèque. En racontant la célèbre mort du philosophe, vous faites l'éloge du devoir stoïcien. Une morale humaine qui tire de sa propre rectitude le sens qu'elle donne à la vie et au monde, sans attendre ni transcendance, ni confirmation venue d'en haut. Vous lisant, comment ne pas songer aux réflexions d'Alain ? Dans le Phédon et dans le Criton apparaissent cette certitude retirée en elle-même, cette fermeté sans emportement, cette volonté d'obéir, et ce mépris aussi de l'obéissance, cet esprit, enfin, qui n'a pas obéi pour se sauver et qui n'obéit que pour se perdre. Se perdre, se sauver, ces mots à partir de là eurent un sens nouveau. Socrate, mort, apparut tout entier. À Galion, son frère aîné, désemparé par l'iniquité de Néron, votre Sénèque répond, lui, celui qui sait mourir, n'est plus l'esclave de quiconque ou de quoi que ce soit, il accède à la liberté. L'étang, l'été, tend son voile bleu sur le pays de Fort-Calquier. Ainsi commence le premier de vos romans, Les Demoiselles de Provence, publié quelques mois avant votre arrivée à France Télévisions. Vous y racontez la vie des quatre filles de Raymond Béranger V de Provence, quatre femmes qui cherchent à rester fidèles à la mémoire de leurs ancêtres, provençales, elles parviennent, grâce à leur beauté, à leur intelligence, à leur vertu, à régner en maîtresse sur les quatre des royaumes les plus convoités d'Europe. Vos romans se répondent l'un l'autre. Tous deux parlent de votre amour de la liberté, de votre amour pour les femmes et pour la Méditerranée. Entre ces deux livres, vos 5 années à France Télévisions. Pour le reste, sans doute faut-il vous suivre à Arles, puisque vous nous y invitez dans Refuge pour tant d'orages. C'est là que nous sommes, le fruit de cette ville qui nous a vu naître, de ces ruelles dans lesquelles nous avons exercé notre jeunesse. Arles, aux roches blanches et à la terre ocre, aux pins et aux bergers, aux toits de tuiles rouges et aux chapelles romanes, aux couleurs fauves, à la douceur mélancolique qui la baigne dans une lumière qui a fasciné Cézanne, Van Gogh, Gauguin. Arles, votre patrie, le pays à l'accent généreux, à la vitalité souriante, ce pays d'art, d'histoire et de poésie, où, par le travail patient et mesuré de l'homme, nature et culture ne font plus qu'un. Sous les oliviers millénaires, entre les tombes blanches et les noirs cyprès des aliscans, les mères regardent les filles danser leur éternelle farandole. Arles, joyau de culture, serti dans les paludes. Nous sommes chez vous, chez Mireille, chez Mistral, le grand Félibre dont les vers rejoignent ceux de son frère, le poète sanscrit, votre inspirateur. Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent haut. Des racines profondes, notre assemblée en a toujours été riche, vous le savez. Vous allez évoquer dans un instant celle normande ô combien de celui auquel vous succédez ce soir. Vous nous direz l'homme de culture qu'il a été et dont nous gardons le souvenir vivace et sans vouloir empiéter sur la mission à laquelle vous commettez une noble tradition, permettez-moi d'apporter ma touche au portrait de votre prédécesseur, en témoignage de reconnaissance. J'ai vécu les quelques mois où, entre le décès de celui qui était mon ministre, le cher Edmond Michelet, et l'arrivée de rue de Valois de Jacques Duhamel, mon ami, c'est à André Bettencourt que Georges Pompidou avait confié l'intérim de ce que l'on appelait encore le ministère des Affaires culturelles. Ces décisions lucides et courageuses ont déterminé les conditions du renouveau de l'Opéra de Paris, qui traversait l'une des crises les plus graves d'une histoire pourtant bien tourmentée. D'autres que moi vous ont sans doute dit ces semaines décisives, où André Bettencourt, guidé par un sens aigu de l'État et secondé par Gabriel de Broglie, son brillant directeur de cabinet, a répondu, en politique avisée, mais surtout en homme de culture, aux attentes de l'avenir. L'avenir, votre avenir, parmi nous, vous l'avez dessiné dès votre élection, en éclairant nos travaux, avant même d'être installé aujourd'hui. Installé, comme ce mot vous sied peu. Ce n'est pas à vous poser, fût-ce dans ce fauteuil prestigieux que notre compagnie vous invite aujourd'hui. Vous y prendriez bien sûr racine, n'est-ce pas le risque que fait courir à chacun d'entre nous l'éblouissement de sa toute nouvelle immortalité ? Non, ce nous attendons de vous, ce sont des ailes, bien sûr vos ailes, ces ailes que mieux qu'un autre vous savez déployer pour survoler et pour scruter ce monde qui tournoie et que sans relâche, ici aussi, nous cherchons à modeler et surtout à comprendre. Cher Patrick de Carolis, quelqu'un publiera un jour, bientôt sans doute, dans une collection désormais célèbre, un dictionnaire amoureux de la télévision. Imaginons un instant que, par impossible, l'éditeur en confie la rédaction à l'un de vos critiques les plus résolus, à l'un de vos ennemis, grâce à Dieu, vous en avez, pire, à l'un de vos successeurs, croyez-moi, il arrive que l'on en ait. Comme il aurait du mal, celui-là, à ne pas vous citer, à ne pas dire votre geste sur les champs de bataille de l'audiovisuel, à gommer vos victoires, à vouloir éviter de citer votre nom ou à le maltraiter, ce nom que beaucoup prononcent déjà avec regret, un nom que nous, vos confrères désormais, nous disons avec fierté et avec espoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup, cher Hugues Gall. Nous allons maintenant écouter Patrick de Carolis, qui va rendre hommage à son prédécesseur André Bettencourt.
Madame, chère Bernadette Chirac, monsieur le représentant du président de la République, madame le ministre, monsieur le représentant de madame le ministre du Budget, madame, messieurs les ambassadeurs, messieurs et mesdames les élus, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Monseigneur, Monsieur le Chancelier, Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis, voici venu le temps pour moi de l'émotion, temps suspendu, instant unique, où quelques mots me tiennent en équilibre avant que je ne bascule parmi vous. Jamais au cours de ma vie, les raisons d'être modeste ne furent si fortes. J'entre ici comme un laïc parmi les clercs. Je ne peux, pour me rassurer, prendre au mot les gentillesses de mon ami Hugues Gall, qui sont, je le sais, le témoin de son indulgence et, je l'espère, de son affection à mon égard. Cher Hugues, plus de sévérité aurait allégé ce poids immense qui pèse sur mes épaules. Pour quelques instants encore, mon épée sera celle de Damoclès. Le dictionnaire connaît trois synonymes au mot remerciement : action de grâce, témoignage et reconnaissance. Reconnaissance. La reconnaissance, c'est d'abord l'action par laquelle je retrouve dans ma mémoire une idée, une image, celle d'un être ou d'un objet que je viens à revoir comme un visage aimé, sculpté sur le pommeau d'une épée, comme un rêve qui vient à ma rencontre. C'est aussi l'acte par lequel je reconnais que j'ai reçu quelque chose et que je suis désormais obligé. Reconnaissance encore lorsque je m'interroge par quelle impudence ai-je pu me présenter devant vous à l'élection. Je mesure aujourd'hui mon audace et je loue votre indulgence. Reconnaissance enfin pour la gratitude, le souvenir que j'ai des bienfaits reçus. Quelque chose d'ancien et de superbe enveloppe quiconque pénètre en ces lieux. C'est le mélange d'un passé respecté et d'un futur espéré, porté par une succession d'hommes libres, communiant à travers le temps autour d'une même exigence d'excellence, autour d'un même amour des arts, d'une même idée de la civilisation française. En 1992, ici même, André Bettencourt signait un travail intitulé « Renan, sagesse et beauté », Ernest Renan, l'un de ses maîtres, qui, à l'occasion de son entrée sous la coupole, commençait son remerciement ainsi. Il y a, et c'est la gloire et la force de l'Académie, un héritage d'honneur que se transmettent l'un à l'autre les membres de la compagnie. Chaque existence est comme une page de votre histoire et la mémoire de chacun de vos morts est chère et sacrée à l'Académie tout entière. André Bettencourt est normand, descendant de ces Gerfaux du Nord, conquérant impitoyable, dont la France a apaisé l'ivresse d'un rêve héroïque et brutal. Comme son illustre aïeul, Jean IV de Bettencourt, qui prit possession des îles Fortunées et reçut le titre de roi des îles Canaries, André Bettencourt aime la mer, les tempêtes et l'aventure. Sur la lame de son épée, notre confrère Pierre-Yves Trémoy a déployé une grand voile gonflée par les vents, par ces vents du nord, et cette voile est fixée, bien sûr, à l'écoute. Aristote affirmait qu'il y a trois sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. André Bettencourt était de ceux-là. Par les matins bleutés, entendre le cliquetis des mâts, la cloche du presbytère et les voix des pêcheurs qui rentrent déjà. À la sortie d'un petit port breton, hisser les voiles, écouter l'eau sur la coque, le vent sur la toile. Éprouver enfin le poids du ciel lourdement posé sur la mer et se laisser porter par le mouvement des vagues qui, selon Marcel Proust, imite le mouvement de notre âme. L'enfance d'André Bettencourt sera bercée par l'affection de son père et la tendresse de ses grands-parents. Pourtant, une blessure profonde le marquera à vie, la disparition de sa mère. Il a alors 4 ans. Le seul souvenir que j'ai de ma mère, disait-il, est le suivant. Un matin, elle est entrée dans le salon, je n'ai eu le droit ni de l'embrasser, ni même de l'approcher, car elle était contagieuse. Elle m'a regardé d'une manière très affectueuse et un peu douloureuse. Je suis resté à l'écart, puis elle est repartie en Suisse pour y mourir. Comment pouvais-je comprendre qu'il m'était interdit d'embrasser ma mère? J'avais 4 ans, je n'ai pas oublié plus de 70 ans après. Cet océan qui console et qui exalte, cet océan qui efface irrémédiablement toute trace et cicatrice, voilà sans doute ce qu'allait chercher André Bettencourt. Mais la mer est aussi le royaume de ces monstres abyssaux qui font se lever les eaux. Par-delà, l'horizon lumineux attend parfois vents perfides et orages effrayants. 1940. Les jours ne sont que d'autres nuits dans lesquelles se glisse la silhouette du malin. Malraux écrira « Le monde aurait pu être simple, comme le ciel et la mer. » Mais déjà, il n'y avait plus que nuit et brouillard. André Bettencourt, jeune journaliste de 20 ans, va écrire quelques articles de 41 à 42, dont 20 lignes pèseront plus que le poids du papier et de l'encre. Ces 20 lignes, plus qu'une erreur, étaient une faute, confessera-t-il plus tard. Daniel Cordier, secrétaire particulier de Jean Moulin, grand résistant, venu comme le général Leclerc et beaucoup d'autres de l'Action française, confie dans Alias Caracalla, on n'est jamais quitte avec son passé. Ajoutons qu'à 20 ans, soit l'on est le prisonnier inconscient des préjugés de son milieu, soit l'otage consentant des ennemis de sa caste. Dans les deux cas, l'enfant que l'on est encore ne s'appartient pas tout à fait. Personne. Aucun être n'est définitif. Chaque acte est l'occasion d'une nouvelle naissance. En 1943, il s'engage dans la résistance au Rassemblement national des prisonniers de guerre. Nous sommes la nuit du 15 novembre 1943 à la gare d'Angers. Le jeune André Bettencourt attend avec son ami Mitterrand, François Mitterrand, fébrile, avec 2 vélos. Les deux amis pédalent jusqu'à Sèche-sur-Loire, où François Mitterrand monte dans un avion pour Londres, puis pour Alger. Là, il rencontrera le général de Gaulle. Ils sont jeunes et intrépides, issus des mêmes familles, nourris des mêmes lectures, habités par les mêmes références. Une forte amitié va naître, une complicité qui survivra aux vicissitudes de la vie politique, une complicité que rien ne viendra entamer. Quelque temps plus tôt, alors qu'ils sont chez les Gouze, parents de la future Danielle Mitterrand, chez qui descendaient Henri Freinet et Bertie Albrecht, ils sont avertis que les Allemands approchent. André Bettencourt raconte « Nous nous enfuyons à travers bois et nous cachons pour la nuit dans la baraque d'un garde forestier. Malgré le danger, notre jeunesse et le goût de l'aventure nous guidaient. » Pourtant, un jour de décembre 1943 à Nancy, il est pris par les Allemands et enfermé à la prison Charles III. Dans sa cellule, l'attendent l'expérience de l'ombre et du danger, l'odeur de la mort, les cris, la cravache qui claque sur la table d'interrogatoire. Une traversée dans les nuits obscures de l'âme, ces souterrains infernaux évoqués par les mystiques flamands. Pour fuir de noires pensées, André Bettencourt se plonge dans la prière, une mine de crayon qui gratte le papier d'un vieux missel pour éventer le souffle tiède de la peur. Au fond d'un cachot froid, quelques mots tournent bruyamment comme autant de mouches sordides. La déportation, l'Allemagne, la mort. Pourtant, près de 2 mois plus tard, grâce à la persévérance de Mademoiselle François, la jeune résistante chez qui il fut pris, il est libéré. « Je lui dois la vie », disait-il en regardant la photo qu'il garda toujours d'elle. Elle qui reviendra de Ravensbrück, brisée, moralement et physiquement. Le lendemain de sa libération, André Bettencourt passe en Suisse, aidé par un douanier, et devient l'agent de liaison du Conseil national de la Résistance, puis membre de la délégation du gouvernement d'Alger à Berne. Le 9 septembre 1944, lorsque le général de Gaulle forme un gouvernement d'unanimité nationale, Henri Freinet, nommé ministre des prisonniers, réfugiés et déportés, sur le conseil de François Mitterrand, il appelle André Bettencourt à son cabinet. Pour sa conduite pendant la guerre, il obtiendra la croix de guerre 39-45 avec palme, la rosette de la résistance et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. André Bettencourt entame alors une carrière politique. Aux élections législatives du 17 juin 1951, il est élu sur la liste de l'Union des indépendants paysans et des républicains nationaux. Le 19 décembre 1952, il prend la parole dans l'hémicycle pour exposer ses vues sur le conflit indochinois. Ses positions de précurseur séduisent Pierre Mendès-France, qu'il appelle à Matignon en tant que secrétaire d'État à la présidence du Conseil chargé de la coordination des services de l'information. Fin politique, il résumait ainsi des enjeux qui sont encore les nôtres aujourd'hui. « Je crois, disait André Bettencourt, à une Europe qui, comprenant mieux sa place dans le monde et retrouvant son idéal, irait de l'avant, ne céderait elle-même que pour mieux aider les autres, aiderait l'Afrique, aiderait les pays sous-développés, apporterait son concours à la vraie libération des peuples et des hommes. » Il fut successivement ministre des trois hommes d'État les plus remarquables de son temps, Pierre Mendès-France, puis le général de Gaulle et Georges Pompidou, dont il fut le collaborateur sans interruption de 1966 à 1973. C'est sans aucun doute avec lui, dont nous fêtons cette année le 100e anniversaire de la naissance, que son entente fut la plus évidente. Pompidou qui disait « La grandeur ne se divise pas » et accordait par passion et par conviction la plus grande importance aux affaires culturelles. Lorsqu'en octobre 1970, Edmond Michelet vient à disparaître, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, demande à André Bettencourt, bien qu'il soit ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, d'assumer l'intérim du ministère des Affaires culturelles. Il accepte, sans abandonner ses responsabilités au Plan. 3 mois plus tard, il doit choisir, il hésite, mais fait ce qu'il considère comme son devoir, il reste au Plan. Fidélité à l'État, fidélité à la patrie, fidélité aussi au pays de Caux. Contredisant bien involontairement Luc et Matthieu, il fut tout au long de sa vie prophète en son pays. En 1945, il fonde le journal agricole dont il sera directeur général et qui deviendra le journal de la France agricole. Il sera également directeur du courrier cauchois. Dès 1947, à la mort de son père, il lui succède au siège de conseiller général du canton de Lillebonne et sera constamment réélu par la suite. À partir de cette époque, il devient conseiller municipal de sa commune natale, Saint-Maurice-d'Etelan, sur 5 générations. Les Bettencourt y occupèrent la mairie. De la mairie à la présidence de la Haute-Normandie, tour à tour conseiller général, député puis sénateur pendant 20 ans, il a servi à tous les avant-postes de sa terre natale, possédant de façon innée le sens du pays. Quand je mourrai, tous les êtres différents que j'ai été se réuniront pour marcher vers le Père. À leur tête, il y aura l'enfant que je fus, disait Bernanos. André Bettencourt aura toujours été fidèle à l'enfant de ce petit village normand, tenant la main de son père pour suivre la procession des rogations dans le matin frais par les chemins de campagne. Avant-guerre, en 1938, l'un de ses amis journalistes lui avait présenté Eugène Schuller, chimiste et homme d'affaires fondateur de L'Oréal. Son futur beau-père va lui apprendre le travail et la rigueur. Le travail, le travail, le travail, confiait d'ailleurs ce dernier à qui voulait l'entendre. Mais également l'amour des arts graphiques et de la peinture. Avec lui, il découvre aussi l'excellence du goût français, les intérieurs d'Eugène Schuller étant à l'époque entièrement décorés par Jacques-Émile Ruhlmann, le célèbre décorateur et ensemblier français. Issu d'un milieu provincial et traditionnel, le jeune homme découvrit que la modernité pouvait être belle et élégante. Mais chez les Schuller, la beauté et l'élégance n'étaient pas réservées aux lignes magnifiques des meubles de Ruhlmann. Le 9 juin 1950, André, permettez-moi ici cette familiarité avec celui auquel j'ai l'honneur de succéder aujourd'hui, se marie avec Liliane Schuller. Un mariage d'amour. L'Oréal avait été créé pour la beauté et Liliane Bettencourt en était l'image même. L'amour du beau en partage, ils formeront dès lors un couple fusionnel. Dans un livre souvenir qu'il destinait à ses proches, André Bettencourt écrira « C'est le regard tourné vers ma femme que je souhaite conclure ses souvenirs. Elle a été toute ma vie. Liliane avait tout. Il était difficile d'apporter à une femme qui avait tant. J'ai choisi l'amour et la douceur. » Peu de temps après son mariage, André Bettencourt est associé à la direction de la firme L'Oréal. Déjà, il cherche la beauté comme une promesse de bonheur, un regard neuf posé sur le monde. Il la trouve d'abord dans l'entreprise de son beau-père. L'Oréal devient l'un des symboles de l'élégance française, accompagnant chacune des évolutions de la société, démocratisant la beauté, offrant le raffinement des soins corporels à toutes les femmes. Sa fille, Françoise, son unique enfant et l'autre amour de sa vie. Il aimait sa pureté et sa droiture, qualité si rare et si précieuse. Sous une belle et grande photo en noir et blanc, il écrit à la main « Entre 1966 et aujourd'hui, 30 années au cours desquelles Françoise est passée de la jeune adolescente à la mère qu'elle est devenue. » Et un peu plus bas, trois mots qui disent toute la tendresse pudique, la fierté et l'amour d'un père, ma charmante fille. Que son épouse, sa fille, son gendre, toute sa famille et ses amis veuillent bien accueillir cet éloge comme une contribution apportée à la mémoire de celui qui leur fut si cher. Mesdames, vous voir ici, toutes les deux, sous la coupole, et au sein de cette compagnie qu'il aimait comme une famille d'élection, est peut-être ce que l'on pouvait offrir de plus beau à celui qui, aujourd'hui, me cède son fauteuil. On juge de la qualité d'un homme à l'usage qu'il fait de son pouvoir. André Bettencourt a su continuellement élever sa vertu au niveau des hautes responsabilités qui lui furent confiées. il n'est rien de plus difficile, rien de plus honorable. Plus il fut puissant, plus il fut bienfaisant. Mieux que d'autres, André Bettencourt comprendra l'impérieuse nécessité de replacer l'art au cœur de la société, au cœur de la vie. L'art nourrissait son esprit, il fut un grand mécène. C'était un homme passionné et proche des artistes. Son frère Pierre était un poète et un peintre reconnu, ami des surréalistes. André Bettencourt aimait ce monde turbulent et excessif. Homme politique tout entier dévoué à la chose temporelle, il se tournait vers les arts comme l'on se tourne vers quelques autels sacrés, secret passage vers l'éternité. Comme le grand mécène, André Bettencourt savait que réussir au jeu des puissants n'était pas le plus haut mérite. Sur son lit de mort, le favori d'Octave recommandait encore Horace, poète de génie, mais farouche républicain, à l'empereur. 48 heures avant de mourir, André Bettencourt donnait lui aussi ses dernières instructions pour le concert annuel de la Fondation Bettencourt-Schuller, prévu à Notre-Dame de Paris. Il était ouvert à toutes les formes d'expressions artistiques, de la littérature à la musique, des arts visuels à l'architecture. À travers la Fondation Bettencourt-Schuller, comme à travers la création de la galerie Arcurial, il a rendu avec son épouse de grands services aux arts de notre temps. Le futur auditorium de l'Institut en sera le témoin. Il portera le nom d'André et Liliane Bettencourt. Le mécène, expliquait-il, est celui qui va pousser le plus loin possible le degré de complicité qui peut exister entre un homme comme tout le monde et un autre, doué de ce miraculeux pouvoir de créer des formes, étrange compagnonnage qui peut donner le vertige. André Bettencourt comprenait les artistes, leurs doutes, leurs quêtes, leurs souffrances. Ces artistes parfois instables, déroutants, insaisissables, ces marginaux fantasques et fantastiques. Je veux dire ici combien ils sont nécessaires à nos vies, combien nous avons besoin de ces alchimistes qui, à l'ombre de leurs ateliers, font naître la lumière qui nous fait homme. André Bettencourt aimait à se retrouver parmi vous. Aujourd'hui, je partage à mon tour ce bonheur. Les artistes sont là pour nous dire combien la terre est trop étroite et le ciel trop petit. Les artistes sont aux humains ce que les abeilles sont à la nature. Ils fécondent nos vies. Sans eux, le marbre ne serait que pierre, la musique une cacophonie, la toile un drap tendu sur un châssis. Quand l'un d'eux disparaît, c'est un peu de la magie du monde qui s'évanouit. L'art révèle nos émotions profondes et nos vérités dormantes. Il est la clé à la fois de notre intériorité et de notre universalité. Vivre vraiment, nous rappelle Edgar Morin, c'est vivre poétiquement. Oui, je le crois, l'art est la poésie de la vie. Plus que jamais, les Français ont besoin de cet oxygène-là. La culture d'une société, c'est l'art qu'elle respire. Certes, le mécénat est essentiel, mais il ne peut à lui seul combler toutes les carences. L'État doit assumer son rôle et fixer le cap de la politique culturelle de la nation. Dans ce cadre, André Bettencourt avait compris l'importance de la télévision. Lors de son passage rue de Valois, c'est lui qui initie avec son directeur de cabinet, Gabriel de Breuil, aujourd'hui chancelier de l'Institut, la première charte entre l'ORTF et le ministère de la Culture. Selon une étude récente, la télévision arrive en tête des activités culturelles des Français avant la lecture, la musique, le cinéma, le théâtre et la danse. Les visites de musées et des expositions arrivent en dernier. À la question « Parmi ces activités culturelles, de laquelle pourriez-vous le moins vous passer ?» La télévision enregistre 64% des réponses. La télévision publique est donc un outil essentiel à la diffusion de la culture. Passerelle indispensable à l'accessibilité de toutes les expressions artistiques, elle est le partenaire naturel de toute politique culturelle. Quand plus de 8 millions de Français, toutes générations et catégories sociales confondues, sont réunis pour suivre les adaptations de Maupassant, c'est le signe que la télévision publique est un outil irremplaçable de diffusion de la culture et de cohésion sociale. Oui, l'art et la vie doivent se parler à nouveau pour le bien de l'un et pour le bien de l'autre. Dans ses carnets, Édouard Manet notait l'essentiel, l'art doit être l'écriture de la vie. André Bettencourt a passé sa vie au service de l'État. C'est ainsi qu'il concevait son rôle à l'Académie. Le jour de son entrée sous la coupole, il dira au président du Sénat « Je suis un élu du peuple. Ici et là-bas, c'est la France que nous servons. » Ce fut pour le véritable chevalier des arts qu'il était comme un adoubement. Son élection fut spectaculaire, réunissant ministres, présidents et les plus hautes dignités de la République. Sous cette coupole, il était estimé, respecté, écouté par ses confrères. Homme de conviction, il gardait le mot juste pour clore avec diplomatie des échanges parfois vifs mais toujours courtois. L'Académie avait selon lui le devoir d'apporter des instruments efficaces à cet idéal d'unité et de cohérence sans lequel les civilisations disparaissent, laissant la place à ce qu'il faut appeler des sociétés de l'indifférence. Promenant sa haute silhouette élégante, sa distinction naturelle, se penchant avec un sourire encourageant vers son interlocuteur, attentif à chacun, il fut un seigneur. Un seigneur adepte d'un humanisme intégral. Un homme sérieux et délicat. Un être empli d'une volonté sobre et tenace. Un homme discret de devoir et d'éducation. Le jour de son départ, sur un cercueil d'une grande simplicité, point de fleurs. Seule la fine lame de son épée, une arme déposée qui n'était pas reddition, mais transmission du combat, comme la barque enflammée d'un prince normand qui part, entouré de ses armes, dérivant sur les eaux sombres et brumeuses du matin. André Bettencourt ne s'accordait pour seule faiblesse qu'un amour immodéré pour la beauté. Modeste, il disait, passion diffuse que la mienne. D'aucuns penseraient, parcourant une vie si sérieuse au service de la France, que l'art n'était qu'un précieux à côté, non pas l'amour du beau a guidé sa vie comme le fil conduisit Thésée. Sa passion pour la beauté faisait corps avec son attrait pour les questions spirituelles. D'ailleurs, de toutes les musiques, celle de Bach avait sa préférence. Sa dimension religieuse en était l'une des raisons. André Bettencourt pensait, comme Rainer Maria Rilke, que Dieu est le futur, le fruit accompli d'un arbre dont nous sommes les feuilles. Si dans sa jeunesse il put aspirer à la prêtrise comme son frère l'abbé Jacques, c'est finalement l'espérance qui fut sa vraie religion. Il avait le regard calme et bienveillant de ces êtres rares à qui la vie a accordé de tout goûter, de tout voir. Quelques jours avant sa mort, André Bettencourt confiait à sa fille, avec une pointe de malice, « Pour mes obsèques, pas plus de 50 minutes, au-delà, on s'ennuie. » Ernest Renan écrivait « L'homme n'a pas de marque plus décisive de sa noblesse qu'un certain sourire fin, silencieux, impliquant au fond la plus haute philosophie. » André Bettencourt fut cet homme. Merci.
Eh bien, merci beaucoup, chers confrères. Nous sommes tous conscients que ce jour de joie est éterni par une légère déception qui est qu'en rentrant dans notre compagnie, vous pensiez devenir le plus grand de tous les académiciens. Vous n'aviez pas compté sans Éric de Mazière, notre confrère graveur, qui vous domine de 3 cm, je crois. C'est irrémédiable, mais sachez néanmoins que nous sommes, avec tous vos amis et tous vos confrères, particulièrement heureux du privilège que nous avons de vous accueillir. Merci beaucoup, la séance est levée.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance d'installation de Patrick de Carolis au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 12 octobre 2011 sous la coupole de l'Institut de France.